Saluton Sébastien.
Saluton Catel.
Alors on va partir dans le nord ce mois-ci avec Europe Espéranto puisqu'on va s'intéresser aux pays baltes, quelques pays baltes avec tout d'abord votre invitée qui est lituanienne. Elle interviendra tout à l'heure longuement sur son expérience personnelle et son expérience en espéranto. Nous allons écouter de la musique aussi et puis la présentation du pays, un candidat à l'Union Européenne, ce sera la Lettonie à la fin de cette émission. Mais en attendant ces musiques, elle vient d'où cette musique?
Alors c'est un pays qui est proche des pays baltes, c'est une musique qui vient de Finlande, une musique en espéranto, c'est un groupe assez à la mode qui s'appelle Dolchamar, autrefois ça s'écrivait avec un CX alors que normalement ça s'écrit C-chapeau, ils viennent de changer leur nom en CH, hein. Ça c'est juste pour l'anecdote, et le morceau qu'on écoute c'est Malbonulo.
Esta semana estás acordado en la construyó, en la construyó. Y policiano antiguas, che la rucha de humo. Es que el permesilo no controla a ti, se echa sin venezolón. A sufrir la serie dental, en y active los que vi, estás mal bonulo, mal bonulo. Malbonulo, malbonulo, vivite salivaremo, malbonulo, crocodile suo e buchero, sonora c'è la porta frigio. E mi tomo esta sangue, lascio io in malama. Domo esta sangu por la camino e chi mi ama. Mi sordo qui la manculo e mancate la frigiuglio e te la sta alcuno, la sta alcuno. Te mamma un pendas me gullo, soffo esta serugia led. Chi a me fina sa la dormo ciando mi tentas cigarrette. L'anguro e cobras veluro. Io estas mi rindalo con formaltre gigi, formaltre gigi. Malbonulo, malbonulo, vin vidi sale aemo, malbonulo. Crocodile su e cae buchero, sonora c'è la bordo trigio.
Saluton Gražina.
Saluton.
Alors, nous avions eu déjà l'occasion au cours de notre magazine Europe Espéranto de parler de la Lituanie, vu que nous présentons chaque mois un des 10 nouveaux pays de l'Union Européenne. Et la Lituanie avait justement été le thème de notre toute première émission en septembre 2003. Mais à l'époque, nous n'avions abordé le sujet que très brièvement, alors que la Lituanie est un pays qui, je pense, est d'une certaine importance et qui mériterait une attention bien plus grande que celle qu'on aurait tendance à croire peut-être ici en France ou en Europe occidentale. Donc, Gragina, tu es ces temps-ci en voyage en France, notamment pour venir présenter ton pays par l'intermédiaire des différents clubs d'espéranto. Pourrais-tu donc commencer par te présenter et nous présenter d'une manière générale ton pays en quelques mots?
Mi estas Gragina Opulskeni.
Je m'appelle Gragina Opulskeni et d'une manière générale, je travaille dans une bibliothèque scolaire et j'enseigne aussi l'espéranto. C'est la raison pour laquelle je suis venue en France pour présenter mon pays. En quelques mots, je peux dire que la Lituanie est un pays balte, un des trois pays baltes le plus au sud, au-dessus de la Pologne. Nous sommes le plus grand, aussi bien sur le plan de la superficie que sur le nombre d'habitants. Et dès le mois de mai, on entrera dans l'Union européenne avec les deux autres pays baltes.
Alors, lorsque j'avais préparé mon émission sur la Lituanie en septembre dernier, j'avais eu pas mal de contacts par Internet avec des espérantistes lituaniens. J'en ai encore plusieurs contacts, notamment parce que je m'occupe de l'organisation d'une manifestation qui aura lieu à Strasbourg et une manifestation à l'échelle européenne. Donc j'ai des contacts avec d'autres espérantistes lituaniens par Internet. Chaque été, au stage de Plouezec, ici en Bretagne, on a des Lituaniennes qui viennent, notamment Gintville qui vient chaque année et d'autres qui viennent de temps à autre. Et cet hiver, j'avais rencontré un espérantiste allemand qui vit et travaille actuellement en Lituanie, Frankas Wurz, si je me trompe pas, et avec lequel nous avions pas mal parlé de la Lituanie. J'ai l'impression que la Lituanie, en effet, est un pays assez actif au niveau de l'espéranto.
Actuellement, il se passe en effet beaucoup de choses avec l'espéranto en Lituanie, car dans un an, en été 2005, précisément dans notre capitale, Vilnius, se déroulera le principal congrès d'espéranto, la plus importante rencontre d'espérantophones, comme chaque année. Et grâce à cela, maintenant, dans mon pays, l'espéranto est au meilleur de sa forme. Il y a vraiment un grand intérêt et des relations actives avec diverses instances politiques, touristiques, médiatiques, éditions de livres, beaucoup de choses.
Mais j'ai également entendu parler même d'autres initiatives assez intéressantes, comme l'enseignement de l'espéranto, même dans certaines universités.
Généralement, on enseigne l'espéranto dans quatre universités en Lituanie. Dans trois d'entre elles, ce sont des cours facultatifs. Les étudiants choisissent d'eux-mêmes. Et dans la quatrième, qui est une université de pédagogie, les cours d'espéranto y sont obligatoires. Et l'espéranto est aussi enseigné dans une vingtaine de collèges et lycées.
Alors, comme nous parlons justement de l'espéranto, quelle est la situation des langues d'une manière générale en Lituanie? D'ailleurs, à ce sujet, j'avais récemment lu sur Internet, je crois, des statistiques qui avaient été faites au niveau des langues parlées en Lituanie.
Generale, en Litovio, on y calculas?
D'une manière générale, en Lituanie, on compte en tout 41 langues que parlent les Lituaniens, car presque tous les Lituaniens sont bilingues ou trilingues. Et dans ce classement de 41 langues, l'espéranto se place en 16e position. C'est une position relativement bien placée si l'on considère que beaucoup de Lituaniens parlent le russe et l'anglais. Il y a également une grande part de Lituaniens qui parlent le polonais, ainsi que le biélorusse, le letton, le suédois, l'allemand, le français. La 16e place pour l'espéranto est donc un bon résultat.
C'est vrai qu'un tel chiffre était étonnant, la 16e position d'espéranto, comme la 16e langue la plus parlée sur 42 langues, dans un pays qui, pour la France, nous semble si petit, c'est assez étonnant. Alors, pour en revenir avec cet espérantiste allemand avec qui je discutais cet hiver, qui réside en Lituanie, nous avions un petit peu parlé de la situation politique du pays, et il me racontait que beaucoup de Lituaniens, ou notamment la presse ou les hommes politiques, les dirigeants lituaniens, avaient souvent peur que leur pays soit mal vu à l'étranger lorsqu'il y avait par exemple des affaires ou des problèmes intérieurs. Paraît-il, il y a actuellement un scandale avec le président lituanien. Or, cet espérantiste allemand me disait que cette peur était totalement infondée, car malheureusement, je pourrais dire, à l'extérieur, en tout cas en France, on n'entend quasiment jamais parler de la Lituanie et on s'en soucie guère, sauf à l'exception. Bon, récemment, on en a entendu parler un peu malheureusement à cause de l'affaire Bertrand Cantat et Marie Trintignant. Mais comment cela, d'après toi, s'explique le fait qu'il y ait une telle différence de point de vue entre la vision du pays de l'intérieur et de l'extérieur.
Tiu scandalo pro nia actuala prezidento.
Ce scandale à cause de notre président actuel, en fait, dure déjà depuis 3 mois. Et pendant les 2 premiers mois, en effet, les Lituaniens ont pensé que ça allait menacer l'image de la Lituanie en Europe. Mais maintenant, cela fait déjà 3 mois et l'on voit que ni Bruxelles, ni la France, ni Strasbourg ne se préoccupent vraiment de nos querelles et problèmes internes. En fait, il s'agit de querelles entre les hommes politiques et ça alimente vraiment bien la presse. Ils ont de quoi parler et de la matière à écrire. Mais je ne pense pas que cela va vraiment influencer l'image de la Lituanie à l'étranger. Bien que, avant mon départ, pour venir faire des conférences ici, même mes amis m'ont dit le plus souvent « Oh, ma pauvre, comment vas-tu arriver à expliquer pourquoi nous avons ce scandale ?» L'explication est simple. Notre président actuel a eu des soutiens financiers de la part d'une grande entreprise russe pour la campagne présidentielle. À présent, on suppose qu'il travaille encore pour la Russie. Et un groupe parlementaire a été créé pour étudier l'affaire. D'après les conclusions de ces investigations, notre président devrait quitter son poste, mais il refuse d'obéir à cette décision. Et il n'existe pas encore de procédé de loi qui permette de l'obliger à démissionner. C'est pourquoi l'affaire dure depuis 3 mois et les Lituaniens commencent à se fatiguer de cette affaire. Ils ont besoin d'un nouveau scandale, peu importe lequel, peut-être un peu moins politique, c'est celui avec votre actrice française Marie Trintignant et le chanteur Bertrand Cantat. À ce moment-là encore, on a parlé pendant des semaines un peu de tout, comment est venue une belle avocate, comment ça s'est passé quand ses parents sont arrivés, et ainsi de suite. Mais je pense que dans ce cas précis, ce scandale a plus touché les Français que les Lituaniens. Les Lituaniens étaient seulement curieux sur sa conduite envers sa femme et les autres affaires. Mais les Lituaniens n'étaient pas vraiment impliqués dans ce crime.
Sur cette affaire avec votre président, donc, tes compatriotes avaient peur que tu aies à t'en expliquer à l'étranger, alors qu'on te l'a même pas demandé, vu qu'on n'y était même pas au courant.
Quelquefois, oui, on me l'a demandé, mais la plupart du temps, j'ai eu des questions sur Marie et son conjoint, plus que sur notre président.
Alors, pour rester dans ce thème un petit peu politique et revenir au sujet principal de notre émission, l'Europe, comment justement l'Union européenne est vue par les Lituaniens et surtout comment ils anticipent leur entrée dans l'Union européenne?
En attendant l'entrée dans l'Union européenne, on a dû changer beaucoup de choses en Lituanie, et tout d'abord dans notre façon de penser. Et je ne pourrais pas dire que maintenant nous attendons cette entrée avec un grand enthousiasme naïf. Nous savons que ce sera difficile, que l'accroissement économique du niveau de vie ne viendra pas rapidement. Nous n'avons pas de faux espoirs à ce sujet. Ce sont surtout les agriculteurs du pays qui ont peur de l'entrée dans l'Union. Mais les jeunes, oui, ils espèrent que la vie deviendra plus stable, plus sûre, et ils pourront peut-être trouver plus d'occupation, plus de travail. Ils attendent une certaine croissance de l'économie, même si elle ne sera pas immédiate. Mais surtout, l'entrée dans l'Union européenne donnera à la Lituanie une sécurité politique, car malgré le fait que depuis déjà 4 ans, nous sommes un État indépendant, nous avons toujours notre grande sœur voisine, la Russie, à côté. De nous. Et tous ici savent que la situation en Russie n'est pas stable et Poutine n'est pas non plus un exemple de démocratie. Et une telle situation peut d'autant plus rapidement changer là-bas si un président d'extrême droite venait au pouvoir. Alors à ce moment-là, la Lituanie pourrait se faire de nouveau envahir en 10 heures de la même façon que cela s'est déjà produit en 1940. C'est pour cela que l'entrée dans l'Union européenne nous donne, disons, presque une garantie de sécurité politique et aussi un peu d'espoir que le niveau de vie s'améliorera un jour.
Pour revenir aussi au deuxième sujet de notre émission, alors l'espéranto c'est une langue neutre et donc de ce fait c'est une langue qui est rattachée à la fois à aucun pays ni à aucun continent. Alors de ce fait, quel pourrait être d'après toi néanmoins le rapport que l'Union européenne pourrait entretenir avec l'espéranto? Est-ce que l'un et l'autre peuvent s'apporter quelque chose mutuellement ou inversement?
Por esperantistoj jam de longe.
Pour les espérantistes depuis longtemps, déjà depuis plus de 100 ans, il est tout à fait clair qu'en utilisant une langue neutre, l'humanité trouvera une solution pour se comprendre les uns les autres. Et déjà maintenant, dans l'Union européenne, on utilise tant de langues et on dépense tant d'argent pour les diverses traductions, tandis qu'avec cet argent, on pourrait faire des travaux vraiment plus utiles et dépenser l'argent de façon beaucoup plus sage. Donc j'espère vraiment qu'avec le temps, dans tous les pays de l'Union européenne et pas seulement de l'Union européenne, on prendra conscience du fait que d'avoir une langue neutre est une solution, que ce soit l'espéranto ou non, ce n'est pas si important, bien que l'espéranto a déjà prouvé par son existence de plus de 100 ans, par la richesse de sa littérature, par ses dictionnaires et expressions spécialisées, qu'elle est prête à assumer cette tâche. Et je crois à la sagesse de l'humanité, à la sagesse des habitants d'Europe. Finalement, l'espéranto devrait être une langue européenne, mais pas une langue unique européenne. Une langue européenne, certes, mais à côté de toutes les langues nationales qui doivent rester, prospérer et auxquelles on doit absolument faire attention.
Alors, pour conclure cette interview, j'ai l'impression que la Lituanie, c'est un pays dont on entend jusqu'ici, dont on a assez peu entendu parler ou trop peu entendu parler. Et pourtant, il s'y passe plein de choses à la fois d'une manière générale et puis aussi au niveau de l'espéranto. C'est vrai qu'en France, on n'a que seulement une université où on enseigne l'espéranto et encore, c'est à titre facultatif. La Lituanie, c'est le pays où aura lieu, comme tu l'as dit, le congrès de 2005, le congrès universel d'espéranto. C'est un pays qui mériterait une attention beaucoup plus grande et je pense que grâce à tes propos, on a pu un peu ressentir cela.
Moi aussi, je tiens à remercier de la possibilité qui m'a été donnée de parler en espéranto et prouver que cela fonctionne entre nous, et aussi de la possibilité plus générale de voyager à travers la France, voir la diversité du pays, voir la gentillesse des gens d'une manière générale, et des espérantistes plus particulièrement qui m'ont reçu, hébergé, guidé, fait visiter et qui m'ont écouté lors de mes conférences. Et je crois que quand nous entrerons vraiment dans l'Union européenne, quand vous n'aurez plus besoin de passeport pour venir en Lituanie, vous découvrirez un petit mais très intéressant pays.
Dankon, Gražina, kaj dis.
Dis.
Saras. Tikai tu, tikai tu, tikai mana biji tu. Tikai tu, tikai tu, vairs atgrieztos, kas visu atdotu. Tikai tu, tikai mana biji tu. Tikai tu, tikai tu, mūsu neaizē, es visu piedotu. Saras. Tikai tu, tikai tu, tikai mana biji tu. Tikai tu, tikai tu, vairs atgrieztos, kas visu atdotu. Tikai tu, tikai mana biji tu. Tikai tu, tikai tu, mūsu neaizē, es visu piedotu. Tikai tu, tikai mana biji tu.
tu, tikai tu, lai viss atgrieztos, es visu atdošu. Tikai tu, tikai mana biji tu, tikai tu, tikai tu, lūdzu neaizē, es visu piedodu.
Comme vous avez pu le deviner, le morceau s'appelait Tikai Tu et c'était le groupe Aeropa qui, malgré les sonorités un peu latines, venait en fait de Lettonie.
Et justement, on va en parler de la Lettonie puisque c'est le pays candidat à l'Europe que l'on présente aujourd'hui, Sébastien.
Alors en effet, après avoir vu la Lituanie, on voit le pays qui est juste au-dessus, la Lettonie. Alors la Lettonie qui dans la langue locale s'appelle Latvia ou Latvijas Republika. Donc il y a un pays de 2,5 millions d'habitants, à 50% de lettons, hein, ce qui est assez peu, et 30% de russes à peu près, d'une superficie de 63 700 km². Alors c'est une démocratie évolutive. La présidente actuelle, c'est une présidente qui s'appelle Vaira Vike Freiberga. Le pays est de religion protestante, alors ça s'explique un petit peu par l'histoire, vu que je crois qu'à l'époque, la Lettonie avait été occupée par des chevaliers teutoniques, ou en tout cas il y avait une influence allemande, donc d'où le fait que le pays soit majoritairement de religion protestante, mais aussi catholique. La capitale s'appelle Riga, elle a 743 000 habitants. Alors les d'autres villes importantes, il y a Daugavpils avec 102 000 habitants, Liepāja, 93 000 habitants. Alors le drapeau de la Lettonie, pour ceux qui se le figurent mal, c'est un drapeau couleur rouge un peu bordeaux, avec une grande bande blanche horizontale au milieu. Et la monnaie actuelle, c'est le lat, qui vaut 1,50 €. Alors au niveau de la culture, on m'a cité qu'il y a une chanteuse assez célèbre, en Lettonie, qui s'appelle Austra Pumpure, je crois que c'est plutôt dans le domaine de la chanson classique, ou plutôt alto, et qui est également espérantophone, donc c'est intéressant de le mentionner. D'autre part, l'écrivain, poète, dramaturge et traducteur le plus connu de Lettonie s'appelle Janis Rainis, donc il est mort, il a vécu entre le 19e et le 20e siècle. Et notamment son livre « L'amour est plus fort que la mort »,« Amo estas pli forta ol morto », a été traduit en espéranto en 1929. Je ne sais pas si la traduction existe en français, peut-être qu'elle est ultérieure ou intérieure, ça je ne sais pas. Comme autre écrivain letton, on peut citer Andrejs Upits, qui était poète, dramaturge et critique sur la période soviétique et qui avait écrit entre autres « Histoire de la littérature lettonne contemporaine ». Alors à propos de la langue lettonne, alors avec le lituanien et le letton sont les deux seules langues balto-slaves encore vivantes. Hein. Autrefois il y avait le prussien si je ne me trompe pas. Mais le letton est nettement plus moderne que le lituanien et il est plus facile, dit-on, généralement pour les étrangers, car c'est une langue un petit peu plus régulière. Ben, quand elle est plus moderne, c'est normal, il n'y a pas eu l'histoire du temps. Il y a de nombreuses racines slaves, mais aussi quelques racines germaniques et latines. Et puis, un peu comme le lituanien, c'est une langue qui est assez proche du sanskrit, donc l'une des plus vieilles langues indo-européennes. Alors la langue littéraire, elle est apparue au XVIIe siècle avec l'influence de l'église luthérienne, hein, comme je l'avais dit, due à la domination au Moyen-Âge par les chevaliers teutoniques. Et actuellement, la Lettonie est un pays on peut considérer comme bilingue, c'est-à-dire letton et russe, qui sont les deux principales langues parlées dans le pays. Alors à propos de l'entrée dans l'Union européenne de la Lettonie, le contact l'espérantiste local de Lettonie, qui s'appelle Marat Timmerman, et que je remercie au passage, m'a dit qu'en fait, c'est pas la grande joie de la part des Lettons, hein, cette entrée dans l'Union européenne, parce qu'ils n'ont pas eu tellement le choix, et puis aussi parce qu'ils viennent de sortir il y a peu de temps d'une autre union, hein, de l'URSS, pour rentrer dans une nouvelle, donc ils se rappellent, ils ont de mauvais souvenirs d'appartenir à une union. Enfin, pour finir, à propos du mouvement espéranto en Lettonie, je sais qu'il a commencé très tôt, un an ou deux ans après le premier manuel d'espéranto, en 1889, hein, donc ça a très vite commencé. Et actuellement, l'association lettonne, d'après ce que m'a dit Marat Timmerman, étonnamment, a que environ un peu plus de 70 membres. Il y a deux clubs à Riga, la capitale, et un à Liepāja. Voilà, en gros, un petit peu ce qu'on peut dire sur la Lettonie et l'espéranto.
Et puis le tout, bah, c'est d'y aller, hein, Sébastien. Hein.
Voilà.
C'est quand même le meilleur moyen de connaître un pays.
Voilà. Et par exemple, en 2005, en Lituanie, et puis après la Lettonie, hein, le congrès mondial d'espéranto dont parlait Gragina tout à l'heure.
Gis, Sébastien.
Gis, Katel.